Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous allons ouvrir maintenant le livre qu'on a le plus voulu détruire et qui est toujours là, parce que Dieu le préserve. Et nous allons l'ouvrir dans... Donc c'est une bibliothèque en fait, hein, où il y a beaucoup de livres. Donc je parle de la Bible évidemment. Et dans cette bibliothèque, eh bien, nous prenons le livre de Luc ce matin. Et aujourd'hui nous lirons le texte de Luc 1, les versets 26 à 44. Luc 1, 26 à 44. Et nous allons entrer dans ce texte où il y a eu un événement qui s'est produit avant. C'est-à-dire que... un ange a apparu à Zacharie pour lui annoncer la naissance d'un fils, alors qu'il était très âgé. Et puis, voilà que nous arrivons au verset 26. Et puis là, il y a une indication de temps, comme ça on sait à quoi ça se rattache. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que ta voix, que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà, généralement, les enfants descendent à la garderie. Il n'y a pas beaucoup d'enfants aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de malades, justement. Si nous n'avions pas de maman, nous ne serions pas là. Nous ne pourrions pas vivre. Et si nous n'avions pas le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas comprendre la Bible. Nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit, comme nous avons besoin d'une maman pour venir dans ce monde. Et dans cette période de Noël, eh bien, nous allons prendre le temps de nous rappeler la naissance de Jésus. Un peu comme aux anniversaires, nous aimons nous souvenir de l'acte créateur de Dieu et sa providence pour la vie qu'il a donnée. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément dans cette période-là que Jésus est né. Ce n'est pas grave. Ça nous permet de nous en souvenir simplement chaque année. Et aujourd'hui, je vous propose de parler plus particulièrement de la maman de Jésus. Car en fait, ce sont quand même encore les mamans qui ont plus de travail lors d'une naissance, n'est-ce pas ? Nous parlerons aussi de comment Jésus a agi envers sa maman. Mais étant donné que Jésus est une personne particulière, j'aimerais commencer par éclaircir une chose. Jésus a deux natures. Il est en même temps Dieu et en même temps homme. Et on ne peut pas séparer les deux. Donc Jésus est en même temps Dieu et en même temps homme, on ne peut pas séparer ces deux natures. Par contre, il n'a pas toujours été homme. Avant de venir dans le ventre de sa maman, Jésus était uniquement Dieu.
Ouais, c'est surprenant.
Donc Jésus a deux natures, il est en même temps Dieu, en même temps homme, et il ne peut pas séparer ces deux natures. Par contre, il n'a pas toujours été homme. Avant de venir dans le ventre de sa maman, Jésus était uniquement Dieu. Il existait en fait avant de devenir homme. L'évangile selon Jean, en fait, commence justement bien avant cela en disant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Verset un peu plus loin, « La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » En fait, Jésus existait déjà avant Marie. Il était déjà fils avant de naître. Il était fils avant de naître d'une femme. C'est très étonnant, hein? Mais là, on entre dans le dans qui est Dieu. En fait, il est le fils éternel de Dieu. Il n'a jamais eu un moment où il n'existait pas ou où il n'était pas le fils de Dieu. Donc, si quelqu'un vous dit, ouais, mais s'il a un fils, Dieu, il a dû avoir une relation avec une femme. Non, parce que Jésus est fils de Dieu éternellement. Il n'y a pas de début, il a toujours été. Donc Jésus a commencé à être un homme, par contre, au moment de la conception par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Marie n'a pas couché avec un homme pour avoir un enfant. C'est Dieu lui-même qui a conçu l'enfant dans son ventre. Une chose qui s'est produite qu'une seule fois dans l'histoire. Comme d'ailleurs la création ne s'est faite qu'une fois dans l'histoire. Jésus, Dieu, s'est fait petit enfant dès la conception. Ça, c'est la puissance extraordinaire de notre Dieu. Moi, ça m'émerveille chaque fois. Nul autre n'a cette capacité de devenir un fœtus humain tout en restant Dieu. Ne me demandez pas comment. Je veux juste vous dire que c'est ce que la Bible nous enseigne de ce qui s'est réellement passé. Bon, maintenant que la question de... Ouais, j'ai encore quelque chose que je dois vous dire, c'est vrai. La maman de Jésus dans son humanité n'est pas la mère de Jésus-Dieu. Elle est la mère de Jésus-Dieu-homme. Comprenez la différence. Donc, Marie est donc la maman de Jésus dans son humanité. Elle n'est pas mère de Jésus Dieu. Elle est mère de Jésus Dieu homme. Et ça, c'est un élément important pour comprendre aussi bien des éléments qui se sont décalés de la vérité biblique. Bon, maintenant que la question de Jésus Dieu qui a toujours existé et Jésus Dieu homme qui a débuté dans le ventre de Marie est réglée, eh bien, réfléchissons à cette maman de Jésus, à ce qu'elle a vécu. On commencera par parler de sa situation. Là, vous allez un petit peu m'aider, j'ai pas mal de questions, mais je commence juste par dire que Marie est un prénom qui est quand même beaucoup utilisé. Beaucoup de filles dans le monde ont ce prénom, d'ailleurs plusieurs ici ont ce prénom, des choses qui ont été déclinées de ce prénom. Hein, vous avez Marie, Mary, Maria, Myriam, Mia, Mara, sans parler des noms composés comme Marie-Rose, Anne-Marie, Marie-Lou, ou les noms dérivés comme Marlise, comme Marielle, enfin tous des prénoms en fait qui sont en lien avec Marie. Ce prénom était courant à l'époque, on en trouve plusieurs dans le Nouveau Testament. Si vous lisez le Nouveau Testament, il y a plusieurs fois Marie, c'est pas toujours la même d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui ont ce prénom-là. Pourquoi les parents l'ont-elles appelée Marie? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Marie veut dire, Mara veut dire amère. Et peut-être qu'ils étaient dans un moment difficile. Et qu'en fait, ils ont appelé leur fille ainsi parce qu'ils étaient dans un moment difficile. On le voit bien, hein, quand Naomi revient à Bethléem, après être partie dans le livre de Ruth, elle se fait appeler Mara. Elle dit, je suis amère après tout ce que j'ai vécu. Et je dois juste vous dire, ça c'est un petit aparté, que chaque fois que je pense à ça, je trouve quand même extraordinaire. De l'amertume, Dieu a fait sortir le Fils qui nous sauve. C'est juste extraordinaire, quand on réfléchit aux significations. Bon, j'ai des questions, comme je vous ai dit, donc on va voir si vous pouvez répondre à ces questions. Or, quel âge a Marie la première fois que nous la rencontrons dans la Bible, dans Luc 2? Quel âge a-t-elle? 14 ans. C'est une idée, hein? Une autre idée? 16 ans? 18? Bon, va s'arrêter. Son âge n'est pas mentionné. Bon, donc je ne vais pas pouvoir vous donner un élément clair. Il est dit que c'est une jeune fille vierge fiancée à un homme. Hein, et les fiançailles se faisaient tôt à cette époque-là. Et estimer que l'âge de Marie est entre 14 et 18 ans, donc c'est parfait ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien c'est tout à fait plausible qu'elle a entre 14 et 18 ans. Bon, deuxième question. Comment s'appellent les parents de Marie? Je vous en pose des questions. Mais il y aura des questions plus faciles, vous verrez. La Bible ne donne pas le prénom de la maman de Marie, donc de la grand-maman de Jésus, si vous voulez. Hein. Mais elle donne le prénom du papa de Marie. Donc dans Luc 3, 23, il est dit qu'il s'appelait Élie. C'est un peu particulier là, donc c'est une généalogie. Hein. Et il y a deux généalogies de Jésus, une dans Matthieu et une dans Luc. Et donc la plupart sont d'accord, et je suis d'accord, que la généalogie dans Luc, en fait, c'est celle de Marie. Dans Matthieu, on a la généalogie de Jésus par Joseph, qui est son père adoptif, si vous voulez. Hein. Et là, en fait, il est de la lignée royale de manière légale. Hein, parce qu'il fallait être descendant de père en fils pour être légalement de la famille royale. Et en fait, Marie était celle qui était de la lignée royale de la chair, du sang, si vous voulez. Et c'est dans Romains qu'il est parlé de cette notion que Jésus était descendant de la chair de David. C'est pour ça que j'ose dire que dans Luc, c'est sûrement la généalogie de Marie. D'ailleurs, c'est pas la même que dans Matthieu. Marie est une personne comme vous et moi, qui a une généalogie qui remonte jusqu'à Adam, le premier homme. Savez-vous, une question suivante maintenant, on va voir. Savez-vous si Marie a des frères et sœurs? Ah, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. C'est que je me base uniquement sur ce que la Bible dit. Il y a bien des écrits à côté de la Bible, qui ont été écrits d'ailleurs des centaines d'années, beaucoup plus tard, pour expliquer plein d'histoires qui sont douteuses. Donc, je me tiens à ce qui est écrit dans la Bible, comme ça on est au clair. Hein? Je ne cherchais pas ailleurs. Donc, est-ce qu'elle a des frères et sœurs? Eh bien, nous ne savons pas si Marie avait des frères, mais nous savons qu'elle avait au moins une sœur. Ça, on le sait. Parce que dans Jean 19, 25, il est dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Marie, femme de Clopas, Marie-Madeleine, enfin, il y a plusieurs personnes qui étaient là, mais il y avait Marie, la mère de Jésus, et sa sœur. Donc, voilà, Marie avait une sœur. Il est comme nous, quoi. Hein? Connaissez-vous d'autres personnes de la parenté de Marie? Élisabeth, ouais, alors là c'était dans le texte tout à l'heure, hein, exactement. Hein, lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle aura un bébé sans aller vers un homme, elle parle d'Élisabeth, sa parente, qui est enceinte alors qu'elle est très âgée. Alors nous ne savons pas si Élisabeth était la cousine ou si elle était la tante de Marie. C'est pas clair, le terme utilisé ne nous permet pas d'être rigoureux là-dessus. Mais c'est une personne proche et donc Élisabeth a un lien de parenté avec Marie. Donc Jean-Baptiste aura un lien de parenté avec Jésus-Christ. Ce que nous savons aussi, c'est que Marie va chez Élisabeth, hein, tout de suite, enfin très rapidement après avoir reçu l'annonciation de l'ange, parce qu'elle se sent liée à elle. L'ange a parlé d'Élisabeth, situation particulière. Elle aussi, elle vit une situation particulière. Donc elle a allé vers elle pour vivre un temps ensemble. Et dès qu'elle arrive chez Zacharie, Élisabeth, son épouse, donc à Zacharie, poussée par le Saint-Esprit, accueille Marie comme étant la maman de son Seigneur. Marie n'a pas eu le temps de lui raconter ce qui s'est passé. C'est l'Esprit de Dieu qui a mis ça dans le cœur d'Élisabeth. Mais Marie avait encore d'autres personnes autour d'elle que nous connaissons. Qui donc? Ses fils. Comment s'appelait-il? Bon, Jésus, joli. Jude, Jacques, joli. Matthieu 13, 35 nous dit ceci. N'est-ce pas le fils du charpentier? Donc c'est des gens qui parlent de Jésus. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-ils pas toutes parmi nous? Donc voilà, nous voyons qu'il a des frères et des sœurs. Donc si vous avez bien écouté, non, je vais peut-être vous relire le texte, puis je vous dis la question que j'aurai. Combien d'enfants a eu Marie? Je relis le texte. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Combien d'enfants Marie a-t-elle eu? Au moins 7. Ben 6 frères et sœurs de Jésus, oui. Joli. Au moins 6, 7, bien sûr. Il est parlé de 4 frères de Jésus. Hein, donc on a Jacques. C'est celui qui écrira d'ailleurs l'épître, Jacques. Hein. On a Joseph, Simon, Jude. C'est celui qui écrira l'épître de Jude par la suite d'ailleurs. Et au moins 2 sœurs, puisqu'il est question de sœurs au pluriel. Marie est donc une mère de famille de 7 enfants au moins, avec tout ce que cela implique dans l'organisation, l'éducation, les soins. Ben voilà, voilà ce qu'elle a vécu. Hein, qu'on se rende un peu compte, quand on parle de Marie, souvent, ben on la voit juste devant la crèche et puis voilà. Non, elle a eu des enfants, elle a vécu une vie, elle a pris soin de sa famille. Et Marie a d'ailleurs un mari. Comment s'appelle-t-il ? Joseph, évidemment. Et quel est son métier ? Charpentier. C'est un artisan qui a sûrement dû apprendre à travailler à ses enfants, puisqu'on voit que Jésus lui-même est parfois appelé le charpentier. Donc la situation de Marie nous permet de comprendre qu'elle est une femme ordinaire dans un petit village promise à un homme comme beaucoup d'autres autour d'elle. En fait, Dieu a choisi une personne ordinaire pour une situation extraordinaire. Porter le Fils de Dieu en son sein. Et savez-vous que Dieu continue à choisir des personnes ordinaires pour une situation extraordinaire ? Accueillir le Saint-Esprit en tant que Dieu dans les croyants. En fait, c'est autant extraordinaire. Parce que le Saint-Esprit est autant Dieu que le Père et autant Dieu que le Fils. C'est une grâce extraordinaire. Maintenant que nous avons un peu réfléchi à la situation de Marie, on va un peu réfléchir à son caractère. Ça va ? Vous êtes toujours là ? Ça va. Les tables vous aident à vous tenir aujourd'hui, hein, c'est sympa ça. Soit derrière, soit devant. Ok, quand l'ange vient parler à Marie, est-ce que Marie part en courant ? Parce qu'elle a peur, il y a un ange. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ben non, elle est là. Bon, peut-être qu'elle est quand même qu'elle a un peu peur, hein. Ça, c'est possible, c'est tout à fait possible. Est-ce que Marie se rebelle et n'accepte pas ce que l'ange lui dit ? Non, elle lui pose des questions, mais ça n'a rien à voir avec une rébellion. Est-ce que Marie accepte ce que l'ange lui dit ? Très clairement, oui, hein, puisque nous voyons au verset 38, hein, si vous avez toujours un petit peu Luc 1 de sous vos yeux, elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie, en fait, est une femme complètement soumise à Dieu. C'est une caractéristique de Marie. Et n'oubliez pas que si c'est une joie immense de pouvoir être la personne choisie pour porter le Messie, elle sera la cible de critiques parce que tout le monde croira que soit elle a couché avec Joseph avant le mariage ou soit elle a couché avec quelqu'un d'autre. Elle devra porter la honte des rumeurs de ce sujet pendant toute sa vie. On trouve même un texte où les gens parlent du fils de Marie. En principe, on dit toujours le fils du père, et puis là, tout à coup, on parle du fils de Marie. Donc, c'était connu, en fait, ces choses-là. Elle devra porter, en fait, cette honte. Elle en est sûrement même consciente, et pourtant, elle est soumise à Dieu. Ce qui nous permet aussi de dire qu'elle va vivre la soumission à toutes les autres autorités que Dieu a mises en place aussi. Parce que la base de la soumission, c'est la soumission à Dieu. Ce n'est pas premièrement la soumission à quelqu'un d'autre, c'est la soumission à Dieu. Marie démontre un autre trait de caractère dans son échange avec l'ange. Est-ce que vous arrivez à voir un autre trait de caractère dans son échange là ? C'est un peu plus difficile la question, mais il faut aussi réfléchir des fois. Hein ? Est-ce qu'il y a un autre trait de caractère qui vous vient quand vous pensez à cet échange entre Marie et l'ange ? Bon, je vais vous aider, enfin, vous avez pensé, vous allez dire bien sûr, ou bien je l'ai reçu par télépathie, non ça, on ne fait pas. Donc Marie, même face à l'ange, garde les pieds sur terre. Moi ça m'impressionne toujours. En fait, elle est très pragmatique. On lui parle qu'elle aura un enfant, elle dit ok d'accord, mais comment un enfant sans un homme là ? Elle a bien compris qu'elle deviendra enceinte, ça là, elle a compris. Mais là pour l'instant elle est vierge, elle ne peut pas tomber enceinte comme ça là. Et elle n'aura pas de relation sexuelle avec son fiancé avant le mariage. Voilà pourquoi elle pose la question. Et en fait, la réponse de l'ange lui dit qu'elle ne devra s'occuper de rien. Et elle lui fait confiance. C'est aussi assez intéressant ici. Marie démontre ici son sens pratique, en même temps son courage de poser une question face à un ange. Je dirais à mon temps, c'est un ange, donc est-ce qu'on ose encore lui poser ? Non, tout naturellement, elle lui pose des questions. Elle n'a pas perdu ses facultés devant cette apparition étonnante. Elle garde toute sa tête. Donc on voit quelqu'un qui est bien dans sa peau. Hein. Et ensuite, lorsqu'elle a reçu la réponse, elle fait simplement confiance à l'ange qui a choisi de l'informer de cette manière-là. Et cela lui suffit. En fait, elle n'a pas besoin d'avoir tous les détails. Marie, si elle cherche à comprendre, ne cherche pas à tout contrôler. C'est une grande différence. Marie, elle cherche à comprendre. L'ange lui donne une information. C'est bon. Entre nous, On aurait quand même voulu un peu savoir plus de choses, d'accord. Si on veut contrôler la situation, c'est un peu... L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, ok, d'accord, ça veut dire quoi? Non, Marie, elle lui fait confiance. Donc elle veut comprendre, mais elle cherche pas à contrôler. Elle savait pas ce que signifiait quand le Saint-Esprit viendrait sur elle, mais elle avait confiance qu'il le ferait. Et un troisième élément concernant le caractère de Marie se voit lorsque les bergers viennent la visiter à l'étable juste après la naissance, ou encore quand Jésus a 12 ans et qu'un événement particulier s'est produit à Jérusalem. Là, je prends un peu vos connaissances générales, hein. Et là, on voit dans ces deux textes quelque chose qui revient. Il est écrit « Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur ». Ou encore dans Luc 2, ça c'était dans Luc 2, 19 ou dans Luc 2, 51, « Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur ». Ça, c'est une caractéristique de Marie aussi. En fait, c'est grâce au fait que Marie pensait régulièrement à tout cela qu'elle a pu s'en souvenir et le raconter à Luc qui l'a écrit dans l'évangile que nous pouvons lire aujourd'hui, en fait. Et un quatrième élément concernant Marie est sa foi et ses connaissances de l'Écriture. Pourquoi est-ce que j'ose dire ça? Pourquoi est-ce que j'ose dire que Marie a la foi et la connaissance des Écritures? Or, la foi, je pense qu'on peut déjà le voir dans le texte qu'on a lu aujourd'hui face à l'ange. C'est vrai. Mais en fait, la notion de la connaissance des Écritures, eh bien, c'est les versets qui suivent, qu'on n'a pas lus. Versets 45 à 55. En fait, Marie, quand elle est arrivée chez Élisabeth, qu'Élisabeth l'a accueillie, comme on l'a vu, eh bien, elle a commencé à chanter, à exprimer. Est-ce qu'elle a chanté une mélodie? Est-ce qu'elle a dit un poème? Je n'étais pas là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est sorti de son cœur. Et en regardant de près ce cantique, qu'on appelle le Magnificat, parce que c'est le premier mot, simplement, voilà, c'est pour ça que c'est ce nom qui est donné. Donc mon âme exalte le Seigneur, mon esprit de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, etc., etc. En fait, la jeune Marie connaissait l'histoire de Anne. Connaissait Anne, la maman de Samuel. En fait, la maman de Samuel, lorsqu'elle a amené son fils pour le consacrer, elle a aussi chanté un cantique. Et si vous lisez ce cantique dans 1 Samuel 2, les versets 1 à 10, et que vous lisez celui de Marie, vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent, en fait. Marie le connaissait, elle en est inspirée, elle n'a pas exactement les mêmes mots, mais vous verrez, c'est comme un même souffle, un peu. Et je vous encourage à lire ces deux textes, dans Luc 1, versets 46 à 55, et 1 Samuel 2, de 1 à 10. Le chant de Marie est aussi rempli d'allusions aux psaumes. Là, j'ai un tableau chez moi où on voit donc tout le texte de Marie, puis ensuite, ben, vous voyez les psaumes dans lesquels on voit exactement les mêmes termes qui reviennent. Ou même ce que les prophètes ont dit, qui revient exactement dans ce texte. En fait, on pourrait dire qu'elle fait un peu un pot-pourri de ce qu'elle connaît, la parole de Dieu ici. On est avec le sujet qui l'anime à ce moment-là. Et je vous rappelle, Marie avait entre 14 et 18 ans. Donc elle était remplie de cette parole, déjà dans son jeune âge. Donc nous avons vu ici quatre traits de caractère de Marie. Le premier, sa soumission, son désir de vivre la volonté de Dieu. Deuxièmement, son pragmatisme, quelqu'un qui s'adapte à toute situation et qui est orienté vers la pratique. Elle est orientée vers la pratique. L'exercice de sa mémoire, donc elle repasse les choses dans son cœur. Et son ancrage dans les Écritures. Et en fait, ces quatre domaines nous encouragent aussi dans nos vies. Nous voulons chercher aussi à nous soumettre à Dieu qui nous guidera dans toutes les autres soumissions que nous devons vivre, comme Jésus a été soumis à son Père. Deuxièmement, soyons pratiques. Ne cherchons pas simplement à faire des théories, mais à vivre nos vies dans ce qui est annoncé, cherchant à savoir comment cela est possible. Comme Marie l'a dit, comment ça sera possible? Parce qu'elle veut le vivre. Troisièmement, exerçons notre mémoire. En repassant dans nos cœurs ce que Dieu a fait pour nous. On peut même l'écrire ou simplement le partager aux autres. En fait, dites régulièrement ce que Dieu fait dans votre vie. Dites-le à plusieurs personnes pour que ça s'ancre dans vos cœurs avec une grande reconnaissance pour son œuvre. Et quatrième élément, remplissons-nous de la parole de sorte que lorsque notre bouche s'ouvre, en fait, elle soit saturée de la parole de Dieu, comme ce magnifique cantique que Marie a composé. Et nous arrivons à la dernière partie, qui est sur l'attitude de Jésus face à sa maman. Donc là, on a vu le contexte de sa maman, on a parlé un peu de son caractère. Bien sûr, c'est pas en une prédication qu'on peut tout voir, mais on voit quelques pistes importantes. Et là, l'attitude de Jésus face à sa maman. Alors, comment Jésus agissait-il avec sa maman quand il était enfant? Comment? Est-ce qu'il courait souvent dans ses bras, ou est-ce qu'il était plutôt indépendant et explorateur? La Bible ne nous donne pas ce genre de détails. On ne sait pas. La seule remarque que nous avons concernant Jésus, avant ses 12 ans, il y a un seul verset qui parle de Jésus avant ses 12 ans. C'est Luc 2, 40, qui dit ceci. « Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Voilà, c'est tout ce qu'on sait en fait, avant ses 12 ans. Nous savons par contre aussi que Jésus n'a jamais péché. 1 Pierre 2, 22 par exemple, il dit « Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. » Alors là, j'ai une petite question, pour les enfants plus particulièrement, mais bien sûr, on est tous des grands enfants aussi, mais est-ce que Jésus a désobéi à ses parents une fois? Jamais. Sauf s'ils lui ont demandé de pécher. S'ils lui ont dit « Dis au voisin que je suis pas là !» Ben, j'ai pas envie de lui parler. Là, Jésus n'a sûrement pas obéi, parce qu'il n'a pas péché. Mais Jésus, en fait, sinon, n'a jamais désobéi à ses parents. À 12 ans, Jésus va à Jérusalem avec sa maman, Marie, et son papa adoptif, Joseph. Que fait Jésus à Jérusalem? Eh bien, en fait, quand ses parents repartent à la maison, lui, il reste à Jérusalem. Et en fait, ses parents ne le trouvent plus. Donc, il marche pendant un jour, puis là, il se rend compte qu'il n'est pas avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils retournent à Jérusalem, et ils le cherchent pendant 3 jours. Nous, on lit ce texte en 10 secondes, là. 3 jours. Il faudrait relire ce texte pendant 3 jours pour qu'on se rende compte, là. Chercher pendant 3 jours. Et savez-vous, ils ont trouvé Jésus à 12 ans, dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi, surpris par son intelligence et ses réponses. Et là, Marie, sa maman, lui fait un reproche. Et elle lui dit qu'il a été pour eux une cause d'angoisse, et qu'ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et que répond Jésus? Ah, excuse-moi, j'aurais dû t'envoyer un petit texto, un petit SMS, que je pouvais pas partir avec vous. Non! Il dit qu'il doit s'occuper des affaires de son Père éternel, de qui il est le Fils de toute éternité. Mais en fait, Marie et Joseph n'ont pas vraiment compris ce qu'il disait. C'est écrit dans le texte d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment compris ce qu'il leur disait. Après, il est reparti avec eux, il ne voulait pas leur désobéir, hein. Simplement, ils ne comprenaient pas encore ce qu'il leur disait. Et il nous a dit ensuite, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis, sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Est-ce que Jésus a reçu des corrections de ses parents? Lui était parfait, mais pas ses parents. Et il a sûrement reçu de ses parents des corrections qui étaient injustes. Il a vécu ces choses-là, Jésus-Christ. Il a vécu des choses injustes. Il n'a jamais été puni pour un péché qu'il a commis. Il n'a jamais été puni parce qu'il a fait quelque chose de faux. Mais il a pu l'être parce que ses parents se sont trompés. Ses parents n'étaient pas conscients de sa divinité. Ils avaient des bribes, ils avaient des éléments. Et ça, c'est un élément important. Ses parents ne le considéraient pas comme Dieu. Et si je peux dire cela, c'est parce que, par exemple, sa mère accompagne ses frères lorsqu'ils veulent l'arrêter dans son ministère en le considérant comme fou. En fait, jamais Marie n'aurait cautionné cela. Elle se serait même opposée à ses enfants qui voulaient arrêter Jésus si elle était pleinement consciente que Jésus était Dieu. Dans Marc 3, 20, hein, il a dit ceci. Puis Jésus et ses disciples revinrent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui car ils disaient « Il a perdu le sens ». Quelques versets plus loin, survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyaient rappeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères, et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici mes frères, mes sœurs, ma mère. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est étonnant, hein? Mais en fait, Jésus, dans son ministère, ne rejette pas sa mère et ses frères, mais il veut leur faire comprendre que leur lien de parenté dans son humanité n'a aucune emprise sur sa divinité. Ça, c'est un élément que Jésus a fait plusieurs fois. Il veut leur faire comprendre que leur lien de parenté dans son humanité n'a aucune emprise sur sa divinité. celui qui est réellement de sa famille est celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui obéit, pas celui qui demande à Dieu de lui obéir. Une autre fois d'ailleurs, quelqu'un dans la foule a dit, tandis que Jésus parlait, hein, si une femme éleva la voix du milieu de la foule et dit « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » En fait, c'était le rêve de toutes les femmes de mettre au monde le Messie.
Ça a changé aujourd'hui, hein.
Ouais, ça a bien changé. Si seulement dans notre société, nous avons plus de femmes qui rêvent de mettre au monde des serviteurs de Dieu fidèles, accompagnés de maris qui rêvent d'élever des serviteurs de Dieu qui apportent l'évangile à des milliers de personnes. Chaque femme en Israël rêvait d'être la mère du libérateur. Voilà pourquoi cette femme a dit cela à Jésus. C'était en fait un immense compliment à Marie. Et voilà comment Jésus répond. Mais il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Jésus souligne que ce n'est pas l'action de donner la vie, de nourrir un enfant qui rend heureux, mais d'écouter la parole de Dieu et la garder. Oui, c'est un privilège d'être maman, d'être même la maman du Messie. C'est vrai que c'est un privilège, mais ce n'est pas la garantie du bonheur. Pour Marie, ça n'a pas toujours été facile. Et d'ailleurs, la réalité de Jésus la dépassait, comme cela aurait été le cas pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, la double nature de Jésus, Dieu et homme, nous dépasse, encore maintenant, et parfois continue à nous dérouter. Une autre chose encore, un jour lors d'un mariage à Cana, la famille de Jésus était invitée, et il était là avec ses disciples. Et voilà que le vin était épuisé. Qu'est-ce que la maman de Jésus a fait? Elle a été à la Migros. Ah non, il n'y a pas de vin à la Migros en plus. Non, elle allait vers son fils, lui dire que le vin manquait. C'est ça, c'est dans Jean 2, verset 3. Il y a juste cet élément. Et comment Jésus a-t-il réagi? Chaque fois que je lis ce texte, je trouve qu'il réagit de manière étonnante. J'ai pas tout le contexte. Moi, j'ai que les paroles qui sont là. Elles sont étonnantes. Déjà, il n'appelle pas Marie maman, il l'appelle femme, pour mettre une distance. Alors, c'était pas un terme péjoratif. Hein. Des fois, on utilise ça plus. C'est pas péjoratif. C'était pour mettre là une distance. Et il lui indique que son heure n'est pas venue. En fait, la remarque de Jésus nous indique que Marie voulait quelque chose qu'il ne voulait pas lui donner. Il ne voulait pas lui accorder. Pourtant, il s'est occupé de la situation embarrassante des mariés qui n'avaient plus de vin. Ça, il s'en est occupé. Et c'est dans ce contexte que nous trouvons les dernières paroles de Marie qui sont rapportées dans la Bible. En fait, après, on n'entend plus jamais Marie parler. Est-ce que vous savez quelles sont les dernières paroles que Marie a dites dans la Bible? Exactement, faites tout ce qu'il vous dira. C'est magnifique, hein. Même s'il n'est pas vraiment conscient de la signification de ses paroles, je ne pense pas qu'elle est vraiment consciente de la signification de ses paroles, Marie nous donne là les paroles les plus sages que nous pouvons dire aux autres. Faut pas qu'on aille dire aux autres, fais ce que je te dis, faites ce qu'il vous dira. On dirige vers Jésus-Christ. Faites ce qu'il vous dira. Sa maman l'a dit parce qu'elle avait confiance en lui. Même s'il n'était pas vraiment conscient de la divinité de Jésus, elle avait confiance en lui, c'est son fils. Et c'est toujours un bon réflexe d'inviter quelqu'un à faire tout ce que Jésus dit. Jésus, il a continué à penser à sa maman, il ne l'a pas laissé tomber. Et on a d'ailleurs un témoignage sur la croix même. Il est en train de souffrir sur la croix. Et là, il voit sa maman. Que fait-il? Détourne le regard. Mais non, il aime sa maman. Évidemment. Il la voit à côté de Jean. Jean, ce disciple qu'il aimait. Eh bien, en fait, il demande à Jean de prendre soin d'elle. Et il dit à sa maman de considérer Jean comme son fils. Ce qui a eu pour effet, en fait, que Jean a accueilli Marie chez lui, qu'il a pris soin d'elle. Jésus aimait-il sa maman? Mais oui, bien sûr. Et il lui a même trouvé une maison pour vivre sa retraite. Parle-t-on encore de Marie dans la suite du Nouveau Testament? Eh bien, la dernière fois que Marie est nommée, c'est dans Actes, donc c'est le livre qui est juste après les évangiles, dans le chapitre 1, au premier chapitre du livre d'Actes. Acte 1, verset 14, il est dit ceci, « Tous, donc là les disciples, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » C'est avant la Pentecôte, là ils priaient ensemble, et il n'en est plus question par la suite. Donc après, on ne parle plus de Marie dans tout le Nouveau Testament. une ou deux allusions hein, dans les épîtres à Paul, mais le mari n'est plus mentionné. En fait, le moment où l'on parle le plus de Marie, c'est lors de la naissance de Jésus, que nous nous remémorons dans ces temps de Noël. Et elle est importante et privilégiée d'avoir porté et mis au monde Jésus, Dieu, homme. Mais cela ne lui donne aucun pouvoir ni privilège supérieur aux autres. Les mères, les frères, les sœurs de Jésus sont celles et ceux qui écoutent la parole de Dieu et la pratiquent. Marie elle-même, dans son cantique, indique qu'elle a besoin d'un sauveur. En fait, elle n'est pas parfaite, elle est perdue sans Dieu. Mais elle a été choisie pour porter le Messie, Dieu-homme, en elle. Alors dans ce temps de Noël, lorsque nous voyons Marie près de la crèche, rappelons-nous qu'elle est une femme ordinaire, qui ensuite a été maman d'au moins 6 autres enfants, et qu'elle a eu besoin, comme vous et moi, de plonger dans la parole de Dieu régulièrement. Elle a eu besoin de se repentir de ses péchés, comme vous et moi, et elle a cheminé dans sa foi jusqu'à ce qu'elle reconnaisse vraiment qui est Jésus-Christ lors de sa résurrection. Comme vous et moi, nous avons besoin de cheminer pour comprendre qui est Jésus-Christ, le servir discrètement, humblement, sans attendre que notre nom soit écrit pour la suite de l'histoire. Il est écrit dans le royaume des cieux. Réjouissons-nous lorsque nous voyons Marie dans les crèches de ce que Dieu est venu en elle comme il vient en nous par son esprit. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants parce que ta parole est incarnée. Non seulement toi, tu es venu sur cette terre, mais tu nous donnes des exemples de personnes qui ont vécu, des personnes que tu as côtoyées. Et une personne toute particulière qui était proche, une relation qui est particulière avec Marie, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as donné dans ta parole, qui nous apprend à la connaître, à voir ce caractère qui nous encourage, ce caractère qui nous pousse aussi à chercher à être proche de ta parole, qui pousse à être prêt aussi à agir d'une manière comme tu le demandes, qui nous pousse à réfléchir à qu'est-ce que ça signifie pratiquement, qui pousse, Seigneur, à exprimer aussi ce que nous vivons selon ta parole et qui nous encourage à nous souvenir de tout ce que tu fais. Merci Père pour ce bel exemple. Merci parce que tu as permis Seigneur que Jésus-Christ ait une maman qui prenne soin de lui. Et Seigneur nous lui en sommes reconnaissants, c'est vrai. Parce que c'est ta grâce qui a été manifestée sur elle. Mais nous te remercions particulièrement pour Jésus-Christ qui lui a payé pour nos péchés, qui a payé pour Marie aussi, qui a pris soin de sa maman, qui l'a aimé et qui nous donne l'exemple suprême de comment vivre en tant qu'enfant avec nos mamans et nos papas. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.